Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, je vais vous parler aujourd'hui de l'Église inspiratrice de toute société, c'est-à-dire de la création de la chrétienté par toute la société, les rois, les gouvernants, les pères de famille, sous l'autorité de l'Église. On en a facilement des notions approximatives étudiées en histoire. Il faut aller au fond des choses, car l'œuvre de l'Église est d'une grande profondeur, d'une grande précision, d'une grande justice, pour tout dire, d'une grande perfection. Je diviserai mon sermon en trois parties. Tout d'abord, un rappel des qualités de l'Église qui vont rayonner sur toute la société. Deuxièmement, l'Église et la société civile. Et troisièmement, la société civile chrétienne, c'est-à-dire la chrétienté. Premièrement, les qualités de l'Église qui vont rayonner. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Ensuite, lorsque nous avons parlé des gouvernants de l'Église, des institutions, donc pape et évêque, nous avons parlé de hiérarchie avec Saint-Denis. Et nous avons vu alors que le caractère sacré donné par le Saint-Esprit à l'Église pénétrait toutes les institutions et leur donnait leur sens et leur fonction. C'est ce qui nous a permis de voir que, normalement, parce que hélas, ce n'est plus tellement le cas aujourd'hui, normalement, la fonction du pape est une fonction d'inspiration, d'unité, qui n'absorbe pas les évêques, mais au contraire, leur donne de rayonner avec une grande majesté. Pensez par exemple à Saint Rémy, mais également en Angleterre à Saint Augustin de Canterbury, ou à Saint Augustin tout court en Afrique du Nord. Voilà des hommes qui, sans être pape, rayonnent d'une façon extraordinaire parce que justement ils sont dans une hiérarchie et que le caractère sacré donné par le Saint-Esprit descend, comme tous les dons du Saint-Esprit, descend à travers toute la hiérarchie pour atteindre jusqu'au simple fidèle dont nous avons vu qu'il avait lui aussi un caractère sacré par le baptême, royal et même sacerdotal. Tout cela, évidemment, va se retrouver dans toute société chrétienne. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est la répartition fine et juste des fonctions à l'intérieur de l'Église. Je viens de vous en dire déjà un mot, mais je voudrais être plus précis. L'Église reprend les notions de politique des anciens. Elle est l'héritière de la politique d'Aristote, de celle des Romains. Et ces sociétés, quoique païennes, étaient beaucoup plus en ordre que les nôtres. On le voit très bien dans les tragédies de Sophocle, notamment la tragédie d'Antigone qui rappelle à Créon, le roi, la majesté, la souveraineté des lois sacrées qui découlent nécessairement de la nature de l'homme, nature donnée par la création. Je vous dis respect de la nature de l'homme créé par Dieu, parce que c'est ainsi qu'on s'exprime en philosophie politique, mais je ferai mieux pour que vous compreniez mieux ce dont il s'agit de vous parler d'un ordre moral. Il y a une morale de l'homme, c'est pour ça que je vous parlais de la nature humaine, mais morale évidemment qui vient de Dieu, qui a été établie par Dieu. Il y a une morale, même chez les païens, qui domine toute autorité royale et, à plus forte raison, tout pouvoir. Et c'est justement ce qu'expriment ces pièces, ces tragédies de Sophocle. Antigone rappelle la supériorité de la morale sur le roi, et de même Œdipe, qui a bafoué les règles morales malgré lui, sans le vouloir, va se sacrifier pour qu'elles soient restaurées, car les règles morales, la morale sacrée, on voit très bien qu'elle est sacrée, cette morale sacrée, divine, domine sa propre personne, sa propre fonction royale. Il n'y aura rien de plus beau pour lui que de se sacrifier pour les mettre à la place, à la première place dans la société. Ce qui domine tout le monde antique, au moins dans l'idéal, mais cet idéal a été quand même bien mis en pratique en Grèce et à Rome. Bien sûr, comme dans toutes les choses humaines, il y a des hauts et des bas, il y a surtout des luttes avec ceux qui veulent respecter cet ordre et ceux qui veulent usurper, mais même les usurpateurs, dans ce cas, sont un témoignage à cet ordre, parce que justement, on ne veut pas le nier, comme fera Luther. Luther qui affirme la suprématie absolue de l'homme et de sa liberté, et donc l'affranchissement total de tout pouvoir envers Dieu, et donc envers la morale. Donc ce qui domine dans la philosophie antique et dans la politique antique, c'est la vérité, à savoir qu'il existe une nature humaine créée par Dieu, même si dans le monde antique cette création reste très mystérieuse, il y a cette conviction de l'existence d'une nature humaine avec les conséquences de justice. La justice a un très grand poids, et c'est pour cela que les chrétiens seront persécutés si vivement durant les premiers siècles de l'Église, c'est que l'Empire romain aura l'impression que les chrétiens viennent subvertir cet ordre et que, en niant les faux dieux, ce qui est normal, ils nient également l'ordre mis en place, ce qui n'est pas vrai. C'est pour cela d'ailleurs que les martyrs se sont laissés martyriser sans se révolter contre le pouvoir qui les martyrisait, parce que justement, ils respectent l'ordre qui a été mis en place. Il est évident que cette nature humaine créée par Dieu est élevée beaucoup plus haut par la grâce, la révélation, puisque tout homme est destiné à aller au ciel. Ça, ce n'est pas nouveau, mais l'enseignement est nouveau dans le monde païen. Et puis, sous cette nature humaine qui crée une justice universelle, respectée par tous, on a l'auctoritas, c'est-à-dire l'autorité, et la potestas, c'est-à-dire le pouvoir. Deux choses qui, dans le monde moderne, sont confondues. Il suffit de prendre les dictionnaires modernes, même le littré d'ailleurs. Le même homme peut détenir l'autorité, c'est pas la détenir d'ailleurs, c'est plutôt l'exercer. Et détenir le pouvoir et l'exercer, mais les fonctions sont tout à fait distinctes. Et en plus, très souvent, le même homme n'exerce pas les deux fonctions. Ainsi, le roi de France, par exemple, a beaucoup plus d'autorité que de pouvoir. C'est à partir de la Renaissance, la prétendue Renaissance, que l'on confondra les notions avec tout le renversement de l'ordre et puis finalement la dictature que cela mettra en place, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Cette distinction entre autorité et pouvoir signifie principalement que le pouvoir n'est pas absolu. Il dépend d'une sagesse qui veille au bon ordre et à l'unité et qui elle-même dépend, comme je vous l'ai dit, de la justice, c'est-à-dire de l'ordre que Dieu a mis dans le monde et de la nature humaine que Dieu a créée, et notamment la nature sociale de l'homme, c'est-à-dire l'amitié. Eh bien, deuxième partie de ce sermon, l'Église et la société civile. L'Église va mettre dans la société ces notions qui ne sont alors dans la société que naturelles, pour ne pas dire païennes, et qu'elle a christianisées, et elle va christianiser toute la société. Le premier acte politique de l'Église, c'est celui du pape Gélase, qui en 494 rappelle à l'empereur Anastase qu'il est au-dessus de lui par l'auctoritas, l'autorité. Vous avez un pape détenteur de l'autorité ou de la majesté divine qui affirme à l'empereur que cette autorité, cette majesté domine la sienne, celle de l'empereur. Parce que c'est la définition de l'Empire depuis Auguste à Rome, cette distinction entre potestas d'une part en bas et auctoritas d'autre part en haut, distinction qui était encore très naturelle, je vous l'ai dit, et qui désormais prend un caractère non seulement sacré, mais de la religion chrétienne. L'empereur va accepter très volontiers, parce qu'il sait que cette autorité de l'Église va renforcer sa propre autorité impériale, surtout à cette époque où il y a quand même beaucoup de divisions dans l'Empire et même dans l'Église. C'est l'époque des hérésies, l'époque des schismes, l'époque des difficultés de l'Empire romain qui vient de se diviser entre Empire d'Occident et Empire d'Orient. Et le bon Dieu, vous voyez, permet ces divisions dans l'Empire pour permettre justement de recréer un ordre chrétien, un empire chrétien, de même qu'il permet les divisions dans l'Église pour mettre en place tout cet ordre hiérarchique ecclésiastique que nous connaissons. Et la cité chrétienne, les royaumes chrétiens vont être beaucoup plus beaux, plus forts et surtout plus chrétiens que l'Empire romain. Le deuxième acte politique de l'Église, les actes marquants, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres bien entendu, le deuxième acte marquant, c'est le baptême de Clovis en 496. C'est-à-dire que vous avez immédiatement l'application de cette suprématie de l'autorité de l'Église sur l'autorité et la majesté des rois. Vous avez un grand roi, parce que Clovis était un grand chef et un grand roi reconnu, qui courbe la tête et qui se laisse baptiser par un évêque. Et la tradition française a toujours considéré que ce baptême de Clovis, avec l'huile miraculeuse de la sainte ampoule, était l'équivalent d'un sacre royal. Et le troisième acte politique majeur de l'Église, ce sera le couronnement de l'empereur Charlemagne. Les empereurs romains d'Occident ont disparu. L'empereur romain d'Orient ne collabore pas, très difficilement, et même on peut dire ne collabore pas avec le pape. Le pape va nommer, couronner, un empereur chrétien pour tout l'Occident, et il espère que ce sera pour toute l'Église, pour le monde entier. Sous l'autorité suprême du pontife romain, se trouve alors consacrée l'autorité suprême de l'empereur. Vous allez me dire, il y a deux autorités suprêmes, ça n'est pas possible. Elles sont suprêmes chacune dans leur ordre. De même qu'il y a dans la morale des vérités plus élevées que d'autres et que la morale est supérieure à l'autorité, de même, il y a un ordre dans l'autorité. Tout en haut, il y a l'autorité suprême du pontife romain, en dessous l'autorité suprême de l'empereur, et puis en dessous les autorités moins élevées et le pouvoir qui dépend de cette autorité ou de ces autorités. Attention, ce n'est pas un pouvoir qui dépend d'un pouvoir suprême, ce n'est pas un pouvoir subalterne qui dépend d'un pouvoir suprême. Justement, tout en haut, ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité, c'est-à-dire une sagesse et une morale, l'exercice d'une sagesse et d'une morale, de la sagesse et de la morale, chrétienne bien entendu. Et cela va mettre en place une collaboration intime entre les rois et les évêques, chacun respectant les fonctions de l'autre. On a cela déjà à partir de Clovis. Quand on étudie l'histoire des Mérovingiens, c'est vraiment l'histoire de la mise en place de la collaboration entre le roi et les évêques. Les rois ayant l'initiative parce que c'est nécessaire à leur royaume, les évêques ayant l'initiative parce qu'ils sont au-dessus des rois, et même les luttes, par exemple des rois ariens qui s'opposent à l'Église, ces luttes se feront autour de ces notions dont tous savent qu'on ne peut les écarter. Les bons les respecteront, l'autorité, le pouvoir chrétien soumis à l'autorité chrétienne. Les mauvais voudront les usurper, s'attribuer l'autorité suprême, sacrée, mais aucun n'aura l'idée de nier ni la morale, ni l'autorité, comme le fera Luther. Et c'est ainsi, troisième partie du sermon qui va être assez brève, que se constitue la chrétienté. Saint Louis, en France, sera un sommet, mais pas lui seulement. Saint-Étienne, en Hongrie, beaucoup plus tôt. Il faut également rappeler l'importance de Cluny, fondé en 900, donc juste après Charlemagne. Cluny, un ordre religieux bénédictin, et qui va pénétrer partout dans le monde chrétien et y mettre un esprit profondément religieux. Il est évident que l'autorité et le pouvoir paternel dans la famille doivent beaucoup à cet ordre mis en place par l'Église, notamment à travers l'ordre religieux du père abbé et des moines qui le suivent. Et on arrive dans cette chrétienté à ce que l'autorité se retrouve à tous les niveaux. On peut légitimement parler de l'autorité du père de famille et pas seulement du pouvoir du père de famille. D'ailleurs, le pouvoir du père de famille est loin d'être absolu. Le père, c'est d'abord une auctoritas, une autorité. Et si on a un tel respect, une telle estime de l'auctoritas, de l'autorité au niveau du père de famille, au niveau du père abbé d'un monastère qui n'est ni roi ni évêque, cela montre que le caractère sacré de la sagesse de Dieu et de la morale a pénétré toute la société chrétienne. La conséquence, une très grande liberté dans la charité, qui est la marque d'une véritable société chrétienne. Un des signes les plus, ou des manifestations les plus évidentes de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la Très Sainte Vierge, mère du roi du ciel et de la terre, est désormais appelée notre dame, c'est-à-dire notre reine, notre souveraine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.